Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Agité du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 avril et au menu de cette émission, nous allons parler des travaux de la place du 11 novembre, et plus précisément du chantier des fouilles archéologiques qui ont commencé depuis 3 mois maintenant et qui se poursuivront jusqu'à mi-juillet, donc on est à peu près à mi-parcours. C'est l'occasion de tendre le micro à l'une des archéologues qui participent à ces fouilles archéologiques et savoir quelles sont les principales découvertes faites depuis 3 mois justement sous nos pieds, place du 11 novembre. On va voir, il y a pas mal de choses assez surprenantes, vous allez l'entendre. Et puis on va également aujourd'hui rester finalement dans l'histoire avec un grand H, puisque c'est la 7e édition de la fête de l'histoire ce dimanche à Laval, un événement ouvert à tous qui se veut le plus accessible possible, organisé par les étudiants en licence d'histoire à l'UCO Laval, à l'Université catholique de l'Ouest, avec pas mal d'animations organisées. Il y a des conférences bien sûr ce dimanche, mais aussi pas mal de jeux, d'animations, d'expositions, de personnes en costume aussi, et avec pas mal d'accessoires pour faire vivre l'histoire autrement. On va voir le programme avec les organisateurs lors de l'interview, lors de ce sujet long de ce vendredi. Et puis aujourd'hui, comme tous les vendredis à peine, puisque c'est un vendredi sur deux, on a la chance d'avoir les organisateurs et les programmateurs, surtout les programmatrices du Carré avec nous pour une chronique qui nous permet de présenter l'un des spectacles de cette programmation. Et aujourd'hui, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais on va parler mythologie grecque. Voilà, c'est tout, c'est le seul indice que je vous donnerai pour l'instant en tout cas. C'est vrai que si on trace un fil comme ça, on voit que l'émission est assez historique aujourd'hui. Et justement, on commence avec cette première question, puisque ça y est, ça fait déjà 3 mois que les fouilles archéologiques place du 11 novembre à Laval ont commencé. Alors, quelles découvertes ont été faites par les archéologues? Eh bien, réponse avec l'une d'elles qui travaille avec une quinzaine de collègues sur le chantier des fouilles archéologiques du centre-ville lavallois. Au-delà de ce que nous pouvons voir tous les jours en passant à côté du chantier en cours, de belles trouvailles ont été mises à jour. Focus sur les plus importantes d'entre elles avec Louise Boulanger, archéologue pour la ville de Laval.
On a fouillé quelques semaines à partir de début janvier, de mi-janvier, devant la mairie. Et donc, sur ce secteur-là, ça a permis de mettre au jour quelques éléments de défense de la ville, notamment un boulevard d'artillerie. Donc, c'est un élément de défense avancé pour protéger une des entrées de la ville, puisque ça correspond à ce qu'on a appelé la poterne de la Chiffolière. Donc, c'est une des entrées de la ville. On a découvert un démaçonnerie qui mesurait 4,50 m d'épaisseur. Là, on est à peu près entre fin 15e, 16e siècle. En fait, on ne sait pas exactement. Mais voilà, on est plutôt dans ces eaux-là. On a découvert une église qui fait partie d'un hospice, qui est l'hospice Saint-Louis, qui est fondé à la fin du XVIIe siècle. Et puis, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a découvert sous l'église des vestiges d'une ancienne maison qui, du coup, date plutôt de la fin du Moyen-Âge. On serait vers le 15e, 16e siècle. On est plutôt parti sur une maison d'habitation, puisqu'en fait, dans l'enceinte de la maison, on a trouvé des traces de cheminée. Puis, il y avait aussi encastré dans un des pans de mur un évier. Donc, ça constitue juste une pierre plate qui est un peu inclinée, qui permet l'écoulement des eaux vers l'extérieur de la maison. Dans la continuité de la rue Souchu-Servinière, et vers la rue de Verdun également, ça nous a permis d'observer des restes de la courtine, de l'enceinte médiévale du XVe siècle, avec vraiment une nette différence entre l'intérieur et l'extérieur des murs d'enceinte. En fait, à l'intérieur, on voit vraiment qu'il y a un habitat assez dense. Donc, on a plusieurs époques qui se superposent d'habitats qui vont du XIVe siècle ou XVe siècle jusqu'aux époques modernes. Et donc tout ça est recouvert par des remblais du 19e, puisque c'est l'époque où on a agrandi l'espace, où on a créé ce grand espace qu'allait devenir la place du 11 novembre. Et on va enchaîner la semaine prochaine avec le décapage du nouveau secteur qui, lui, se trouve donc sur l'ancien emplacement du parking qui était sur la place du 11 novembre, qui est l'emplacement de l'ancien jet d'eau qui a été détruit depuis. sous ces 3-4 mètres de remblai, et ben là, on a commencé à atteindre les niveaux naturels et qui sont des niveaux très humides, très gorgés d'eau, puisqu'on vraiment, on est dans des niveaux très profonds et on a bientôt atteint les niveaux de la nappe phréatique. On est proche de l'ancien cours de la Mayenne, donc tout ça fait que ce sont des sédiments très humides qui ont très bien conservé les éléments organiques, comme le bois, le cuir. Voilà, on a par exemple retrouvé plusieurs semelles de chaussures, beaucoup d'éléments en bois, beaucoup de poils. On a trouvé des touffes de poils, donc probablement du crin ou du... Voilà, on va devoir analyser ça pour savoir de quel animal il s'agit. On a tout un lot de fosses qui ont été creusées dans la terre, mais qui ont été comblées après par la suite quand elles n'étaient plus utilisées, qui correspondent probablement à des activités artisanales, mais on ne sait pas exactement, on est surtout sur des activités de textile, de tannerie, donc voilà, probablement que ce sont des structures qui correspondent à ces activités-là, mais concrètement, on ne sait pas trop encore quoi. C'est important en fait de restituer aux habitants de Laval ce passé qui leur appartient finalement, et puis voilà, de pouvoir leur permettre d'entrer dans ce chantier interdit au public. C'est vrai que du coup c'est un peu les gens sont curieux et c'est normal, du coup pour nous c'est vraiment important de réussir à ouvrir un maximum et à permettre à un maximum de gens de voir ce qui se passe à l'intérieur.
Les fouilles archéologiques se poursuivent jusqu'à mi-juillet. Des visites sont régulièrement organisées. Les prochaines, ce sera le 26 avril à 11h30 et 13h30 et le 19 avril à midi et 14h. Et puis pour les enfants, pendant les vacances scolaires, en l'occurrence les 7-9 ans, un stage en immersion leur est proposé les 27 et 28 avril de 10h à midi. Tout est gratuit mais sur réservation par mail à billetterie.office@laval-tourisme.com ou bien par téléphone au 02 43 49 45 26. On va rester dans l'histoire avec cet événement organisé par des étudiants en licence d'histoire à Laval, mais juste avant, on écoute Serpent avec Lonely Freak. C'était Serpent avec Lonely Freak dans l'AJT du local. Vous êtes bien à l'écoute de l'autre radio et on va passer à l'interview de ce vendredi avec cette 7e édition de la fête de l'histoire ce dimanche à Laval, organisée par des étudiants en licence d'histoire à l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest. L'événement est dédié à l'histoire locale en présence d'une douzaine d'associations du territoire et se veut surtout accessible à tous, des jeunes enfants jusqu'aux passionnés d'histoire, avec dans le détail des conférences, des animations immersives dans la Mayenne d'il y a quelques siècles, des expositions ou encore différents jeux. Précision avec trois des étudiants organisateurs de l'événement.
Alors moi c'est Thomas Boucher, je suis en troisième année de licence d'histoire à l'UCO Laval, et donc je fais partie des organisateurs de cette 7e édition des Fêtes de l'Histoire.
Alors tout comme Thomas, moi c'est Simon, je suis étudiant en troisième année de licence d'histoire à Laval et je suis aussi membre de l'équipe organisatrice de cet événement.
Et moi je m'appelle Jocelyn Michel et comme mes deux camarades, je fais aussi partie de l'équipe qui prépare la fête de l'histoire et nous serons tous présents le dimanche 16 avril sur le campus pour la fête de l'histoire.
C'est ça, donc une 7e édition ce dimanche 16 avril, organisée par l'Université catholique de l'Ouest à Laval, l'UCO Laval. 7e édition organisée exclusivement par des étudiants à chaque fois, des étudiants en 3e année de licence d'histoire, c'est ça?
Alors cette année et l'année dernière, ce sont plutôt des étudiants en 3e année de licence d'histoire, puisque à l'origine, c'était des étudiants de 2e année de licence d'histoire qui avaient lancé le projet. Mais il a été décidé, pour des raisons pédagogiques, de faire ça en 3e année.
Donc ça dure toute la journée, justement. Je cherchais les horaires, donc on est sur vraiment 9h30, 19h, toute la journée ce dimanche 16 avril. Qu'est-ce qu'on pourra trouver, justement? Il y a pas mal de choses qui sont prévues, des conférences, des animations, beaucoup en collaboration avec des associations locales. À qui avez-vous fait appel et pourquoi?
Eh bien écoutez, au niveau des associations, on a tout d'abord fait appel à des associations du département. Voilà, on en a 8 qui... on trouvait ça intéressant de faire appel à elles parce que ce sont des associations qui défendent le patrimoine et on trouve aussi intéressant de pouvoir les réunir et pourquoi pas développer un futur partenariat entre deux associations du département, enfin qu'elles travaillent ensemble dans la conservation du patrimoine et l'histoire mayennaise.
Dans le détail, du coup, est-ce qu'on peut avoir quelques noms de ces associations?
Eh ben, il y a par exemple le musée Jean Chouan. Voilà, on peut les nommer. Il y a aussi l'association Histoire et Patrimoine de Montsûr. Puis on a aussi le patrimoine du pays de Mayenne et le cercle de généalogie, car le cercle de généalogie vont être aussi présents par rapport à la paléographie, un jeu qu'on a prévu, une animation qui sera prévue sur le campus le jour de la fête de l'histoire.
Donc ces associations-là, elles seront présentes toute la journée, elles vont participer à certains jeux. Il y a des expositions aussi, je crois, qui sont prévues.
Alors il y a l'exposition de l'association du Mémorial des déportés de la Mayenne, qui nous permet d'exposer tout simplement une exposition sur les prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une exposition un peu en deux temps, un premier temps sur les prisonniers de guerre en France, en général en France, et ensuite on fait un zoom sur les prisonniers de la Mayenne. Ensuite, il y a une autre exposition que va nous présenter Mizard. Mizard, c'est une personne qui fait de l'iconographie médiévale et il souhaite évoquer dans ses dessins le beau et le transcendant. Donc ça va être avec des petites plaquettes qu'il va présenter à la fête de l'histoire. Ensuite, il y a également l'association du patrimoine donc du pays de Mayenne qui va présenter un retour en images sur le nord Mayenne et qui va présenter d'anciennes photos et des images de bâtiments historiques, de maisons et d'appartements en Mayenne. C'est l'association Histoire et patrimoine de Montsûr qui va également présenter elle aussi des photos. Et il y a, comme l'a évoqué Jocelyn, l'association du cercle généalogique de la Mayenne qui nous fera l'honneur d'être présent.
Au niveau des époques, est-ce que vous aviez justement un créneau chronologique très précis ou pas du tout? On peut revenir justement, on parlait du paléolithique jusqu'à là de l'histoire contemporaine.
L'objectif de la fête de l'histoire, c'est de revenir tout d'abord sur l'histoire et le patrimoine mayennais. C'est pour ça qu'on ne s'est pas contenté de créer un événement sur une période. On a vraiment voulu étaler donc, cet événement sur l'ensemble des périodes historiques et du coup la Mayenne dans ces périodes. C'est pour ça qu'on va du paléolithique avec Ulrich Frumy, donc ancien étudiant, jusqu'à donc, la Seconde Guerre mondiale. avec Monsieur Waller, et puis en passant par la guerre de Vendée, voilà, avec Madame Anne Roland-Boulestrot. Le but, c'est vraiment d'évoquer la Mayenne à travers plusieurs époques, comme un peu un voyage dans le temps, et de montrer au public ce qui s'est passé en Mayenne à ces époques, tout simplement.
Il y a juste un petit truc qui m'intrigue. Les guerres de Vendée, quel rapport avec la Mayenne ?
Eh bah, écoutez, la Vendée, déjà, on parle de guerre de Vendée. La Vendée, c'est certes un département, enfin un territoire, mais c'est aussi une façon de qualifier toutes les personnes qui étaient contre la Révolution à cette époque-là. Et il faut savoir qu'il y a aussi un certain nombre de Chouans qui ont participé à ce mouvement contre-révolutionnaire. Les Chouans étant donc pour une partie mayennais. Du coup, il y a un lien direct entre la guerre de Vendée et la Mayenne.
Donc ça fait partie des conférences qui seront proposées justement tout au long de cette journée. Les conférences s'adressent à qui ? Est-ce que c'est peut-être à un public qui est déjà un petit peu plus averti ou pas forcément ? Ça se veut grand public aussi comme le reste des animations ?
Alors, ça dépend des conférences. La première conférence avec Ulrich Fromy, oui, elle s'adresse à peu près un...
Sur le paléolithique.
Sur le paléolithique, oui, pardon, s'adresse avec... un public assez large, puisque bon, tout le monde ne connaît pas le paléolithique, et encore moins le paléolithique en Mayenne, donc il va faire une sorte de présentation générale. Ensuite, pour ce qui est des deux autres conférences, avec Anne-Roland Boulestrot et Christophe Verle, sur la guerre de Vendée et sur les prisonniers de guerre français en Allemagne lors de la période 1940-1945, elle s'adresse cette fois-ci à un public assez mûr, alors connaisseur, oui et non, mais puisque les sujets évoqués ne seront pas des sujets relativement simples, c'est plutôt des conférences qui vont s'adresser à des adultes.
Donc effectivement, on l'a dit, il y a beaucoup de choses, ces stands, ces conférences, et aussi pas mal d'animations, de jeux. Alors je ne sais pas si on va forcément détailler tout le programme, parce qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs, mais peut-être en citer quelques-uns, et puis dire à qui ça s'adresse aussi.
Donc pour les animations, par exemple, on aura Raconte-nous une histoire. Donc ce seront proposés par... nos camarades qui ont pour but de devenir enseignantes, je veux dire, dans le premier degré. Donc voilà, et aussi une autre qui veut faire métier du livre. Elles vont raconter des histoires pour les plus jeunes, voilà, entre 3 et 10 ans à peu près, et ça va durer à peu près 15 minutes chaque lecture. Ensuite, on a l'Amélie d'Andol qui sera présente. Donc l'Amélie d'Andol, c'est une association qui vient d'Andouiller. Et ils vont faire une évocation de la vie au XIIIe siècle. Donc là, c'est un petit peu le point médiéval de notre programme. Et ils seront là pour faire des démonstrations de tir à l'arc avec des arcs médiévaux et pourquoi pas d'escrime. Et en tout cas, ils auront leurs habits du XIIIe siècle. Et ensuite, on a Mayenne World War II. Donc là, c'est une association, voilà, toujours de la Mayenne. Et ils vont faire une mise en scène de la libération de Laval, donc durant la Seconde Guerre mondiale. Et ils seront présents, voilà, donc avec leurs habits de la libération, mais aussi avec possiblement une ou deux jeeps. Donc je pense que ça peut être pas mal pour les gens de voir ça. Et ça fait pas mal de temps que l'Amélie d'Andol et Mayenne World War II viennent à la fête de l'histoire. Donc on est heureux une nouvelle fois de les accueillir.
Donc ça passe aussi finalement par les accessoires, par les costumes, par les histoires, pour parler justement de la grande histoire avec un H. C'est aussi ça l'objectif ?
Ah, l'objectif est clairement d'utiliser toutes les ressources possibles, qu'elles soient donc universitaires avec les conférenciers, mais aussi que ce soit au niveau des animations ou des jeux. Le but, c'est vraiment de permettre à tout public de tout âge de découvrir la Mayenne, son histoire, et de savoir tout simplement l'histoire du département auquel il vit.
Qu'on ne connaît d'ailleurs effectivement pas forcément. Est-ce que vous-même, en préparant cet événement, en faisant les recherches, en contactant les associations, vous avez découvert des choses, des événements que vous ne soupçonniez pas forcément, ou en tout cas peut-être que vous aviez étudié, mais pas comme ça, et j'imagine que vos études ne sont pas en plus spécifiquement sur l'histoire en Mayenne, donc qu'il y a aussi des petites découvertes ?
Bah, pour ma part, j'ai contacté Pierre Bouguier, donc moi qui ne suis pas forcément très musique, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir son univers, parce qu'il a un véritable univers, Pierre Bouguier. Et c'est vrai que là-dessus, et je pense que Thomas et Simon pourront en parler, mais ce qui nous a vraiment permis de découvrir, c'est aussi la notion de projet. Je ne sais pas si Alain de vous...
En fait, en préparant cette fête de l'histoire, on a été amené à contacter beaucoup de personnes, beaucoup d'associations, et donc forcément on en a découvert. Moi par exemple, je suis de Mayenne, hein, je savais pas qu'il y avait une association sur le patrimoine, enfin une association sur le patrimoine du pays de Mayenne. Donc c'est en les contactant que j'ai appris à les connaître, et donc oui, en organisant ces fêtes, on a forcément découvert plein d'associations, même des histoires sur notre département qu'on ne connaît pas par cœur non plus.
Puis c'est surtout en termes de méthodologie aussi, on a beaucoup appris. On est dans une formation donc en licence d'histoire où on est plus sur de la théorie, sur de la rédaction, sur de l'oral, et pas, on ne travaille pas beaucoup la mise en place de projets. Et depuis le début d'année, on a dû donc acquérir une connaissance méthodologique sur la mise en place d'un projet. Et je pense que c'est vraiment là ce qui résulte de ce projet, c'est vraiment l'apport méthodologique qu'il a pu nous amener.
On a appris à travailler tous ensemble, avec des affinités plus ou moins évidentes. On a appris à respecter des deadlines. On a appris aussi à tout mettre en commun. Contacter aussi de bon nombre d'associations, parce que là, bon, on vous parle d'associations qui nous ont donné des réponses. On a aussi beaucoup d'associations ou de personnes qui ne nous ont pas répondu.
D'accord.
Donc ça nous a vraiment permis d'acquérir une bonne méthodologie, d'accepter parfois le fait que ça n'aboutisse pas. Et donc oui, à l'avenir, on se sent préparer d'autres projets plus ou moins ambitieux après.
Ce projet-là, est-ce que c'est aussi une manière de partager votre passion, j'allais dire, en tout cas votre envie de faire une licence d'histoire? J'imagine que si vous avez choisi ces études-là, c'est pas par hasard. Et là, de passer par un événement comme ça, très ouvert au grand public, ça permet aussi de parler de ça et de parler aussi de la formation, tout simplement.
Oui, bah, je pense que je peux parler un petit peu au nom de tous les trois, mais tous les trois, on est aussi en option enseignement. Donc nous, voilà, partager l'histoire, c'est un peu aussi pour ça qu'on est présent à l'UCO, et puis dans notre futur métier d'être enseignant en histoire et géographie, c'est le partage avant tout de l'histoire et bon aussi de la géographie, mais là surtout de l'histoire pour la fête de l'histoire. Donc oui, c'est ça aussi qui nous tenait à cœur, et ouais, c'est ça aussi le plus important, de faire découvrir à des personnes qui n'ont pas l'habitude, et voilà, essayer de singulariser, rendre ça le plus facile à comprendre, en tout cas pour les personnes qui seront présentes.
Même pour des personnes qui se diraient « Oh là là, l'histoire, c'est trop compliqué, il faut retenir plein de dates, on comprend rien. L'histoire en Mayenne, en plus, est-ce qu'il y a vraiment des choses intéressantes qui se sont passées ?» Justement, même à elles, vous pouvez dire « Mais si, venez, parce qu'il y a plein de petites histoires à découvrir aussi. »
Mais déjà, l'histoire, c'est pas que des dates, c'est aussi des événements, des personnages qui sortent de l'ordinaire. En Mayenne, on en a quand même pas mal, malgré ce qu'on peut croire. Par exemple, Jean Chouan, qui est quand même un acteur important de la Révolution française, quoi qu'on en dise. Donc, ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est bah, si vous croyez que l'histoire, c'est que des dates, bah, venez le 16 avril et on vous prouvera le contraire.
Puis, si je peux rajouter deux, trois petits mots. Souvent, c'est vrai que quand on en parle à des personnes qui ne sont pas du tout attirées par l'histoire ou qui ne sont pas historiens, souvent, elles nous disent « Oh là là, mais il n'y aura que des conférences, il n'y aura que des dates à retenir. » Non, vous avez des activités, vous avez des animations, vous allez avoir des représentations. Effectivement, il y a des conférences qui vont être plus théoriques, mais on a essayé de faire en sorte que cette édition s'adresse des plus jeunes, des enfants, jusqu'aux personnes très concernées par l'histoire.
Faites entrer l'histoire, c'est dimanche dans les locaux de l'UCO Laval, au 25 rue du Mans, de 9h30 à 19h. L'entrée est libre et gratuite, et la programmation complète est à retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant Fête de l'Histoire, tout simplement. On va passer donc à cette chronique du carré dans quelques minutes. Et oui, puisque là pour l'instant c'est l'heure de la musique avec Childish Gambino qu'on écoute tout de suite. Have some love.
It's all hard to find.
toujours dans l'AJT du local sur l'autre radio. Nous sommes le vendredi 14 avril et comme chaque vendredi tous les 15 jours, en fait finalement quand on ne vous emmène pas en balade sonore, on part dans un autre type de balade du côté du Carré à la découverte des prochains spectacles de la scène nationale de Château-Gontier. Et aujourd'hui, Maëlle nous parle d'une très belle œuvre inspirée de la mythologie grecque. Et donc là, ça y est, on attaque le mois de mai avec ce spectacle, l'Odyssée.
L'Odyssée, donc c'est une adaptation évidemment du mythe d'Homère, l'histoire d'Ulysse, et en l'occurrence, là c'est l'autrice et artiste associée du Carré, Marion Aubert, qui s'est penchée sur ce mythe-là, mais beaucoup plus du côté de l'enfant d'Ulysse, Télémaque. C'est-à-dire non pas ceux qui vivent ces épopées et ces aventures, mais ceux qui les attendent. Voilà. Ceux qui attendent dans l'ombre et qui vivent dans l'ombre tutélaire d'une figure paternelle, fantasmée, imaginée, et la figure de l'absence. Et c'est une très belle relecture sensible de ces épopées-là, une épopée plus de l'intime. Du secret, de ces colères intimes de ne pas en être ou de ne pas connaître celui qui nous sert de repère. Et c'est une très jolie proposition qui est aussi très drôle sur un dispositif bifrontal où on retrouve effectivement la parole de Télémaque, l'enfant d'Ulysse, qui questionne justement, qui est aussi accompagné par un chœur d'orphelins, des orphelins qu'ils retrouvent sur une plage et qui eux-mêmes sont dans cette quête de sens, quête de repères et quête de paternité. Donc c'est une très jolie adaptation, pleine de subtilité. Parfois on retrouve la guerre des étoiles un petit peu dans la scénographie, avec ce rapport justement un peu tutélaire et fantasmé, plein d'espièglerie aussi, qui est proposée par Marion Guerrero, donc l'acolyte de Marion Aubert, à la mise en scène. C'est une proposition donc très familiale, en tout cas, c'est à partir de 9 ans. Et voilà, c'est une proposition assez courte et pleine d'énergie et de rebondissement. La langue de Marion Aubert est très fleurie, très évocatrice, très dynamique, très moderne. Voilà, on est dans une relecture vraiment contemporaine et très plaisante de ce mythe-là, avec une dimension très, très sensible, qui est très attachante. Donc l'Odyssée, ça aura lieu le jeudi 4 mai à 20h30.
Et pour prendre vos places et voir le reste du programme, rendez-vous sur le site internet le-carré.org. C'est aussi l'occasion, et oui, nous sommes vendredi, de faire un petit point sur les animations et autres rendez-vous du week-end à ne pas manquer. Il y aura notamment le festival des Poclinades à Mayenne à partir de ce soir et jusqu'à dimanche, qui peut donner la chance à chaque troupe de théâtre amateur de se produire au théâtre de Mayenne. Ça commence donc ce soir à 20h30 avec adopteuneprincesse.com de la compagnie Contes et Comédies de Comté. Il y aura demain après-midi Silence on tourne de Dernier Théâtre. Demain soir, le théâtre du jeudi du Maine-et-Loire qui présentera la pièce Building. Et puis dimanche à 14h30, la troupe des Baladins de l'Espérance présentera en tout cas cette pièce dans les bas-fonds de Paris. Et deux prix seront décernés à l'issue de ce grand week-end de théâtre, le prix du public et le prix des Poclinades. Vous pouvez réserver vos places auprès du kiosque au 02 43 30 10 16 ou bien par internet sur lespoclinades.com. Et puis il y a aussi de la musique ce soir avec le groupe Maracuja qui fait la tournée des VNB du Grand Ouest. Et en l'occurrence, il sera donc ce soir à celui de Mayenne pour présenter leur morceau de Reggae and Roll. C'est en tout cas comme ça qu'ils définissent leur musique, avec évidemment un single qui devrait bientôt sortir avec un clip avant l'été, nous promettons. Évidemment, ceux du groupe nous promettent ceci, évidemment, c'est pas moi qui parle en leur nom. Il y aura aussi demain soir du côté de Château-Gontier, en l'occurrence Château-Gontier-sur-Mayenne, donc à l'espace Jacques Brel à Saint-Fort, un concert d'orchestre des élèves de l'harmonie du conservatoire et de l'harmonie du pays de Château-Gontier, avec là les instruments avant qui seront à l'honneur, donc c'est demain à 20h30. Le concert est gratuit et ouvert à tous. Et puis c'est le coup d'envoi aussi de la saison culturelle du pays de Mélégré demain à 17h à Gré-en-Bouère sur le parc des Lilas. Et là, c'est... Il y aura une fanfare, en tout cas, qui sera là justement pour commencer, bah, c'est le cas de le dire, commencer en fanfare cette saison culturelle. Ce sera suivi le lendemain, dimanche, d'une randonnée patrimoniale à Beaumont-Pied-de-Bœuf et lundi d'une visite de la ferme Villette en direct. Là, c'est un petit peu plus proche de Château-Gontier, à Gênes-Longuefuy. Il y aura aussi ce week-end au bar Les Marins d'Eau Douce à Niafle à 20h. Demain samedi, un concert du duo Bluesgrass Twins, du bluesgrass comme son nom l'indique, avec un repas aussi sur réservation à 13€ auprès donc du bar Les Marins d'Eau Douce à Niafle. Et puis décidément, beaucoup de théâtre ce week-end, puisqu'aux Angenoises à Bonchamp, alors ce week-end, pas tout à fait ce week-end d'ailleurs, plutôt la semaine prochaine, à partir de lundi et jusqu'à samedi prochain, eh bien un festival de théâtre amateur, là aussi 32e édition aux Angenoises à Bonchamp, avec un prix du jury qui sera remis, et en tout cas, la billetterie est donc à retrouver en ligne. Évidemment, nous n'avons pas tout dit parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en Mayenne ce week-end et dans les prochains jours, puisque les vacances scolaires commencent en plus bien dès ce soir. Mais en tout cas, c'est histoire de vous donner un petit aperçu. C'est la fin de notre émission pour ce vendredi. Restez bien à l'écoute de l'autre radio, puisqu'à 19h, il y aura Dancehall Social Club. Ce sera suivi à 20h de l'émission Tempus Fugit. Et puis ce week-end, notamment, parmi toutes les émissions programmées par notre programmateur, comme son nom l'indique, eh bien, ne manquez pas samedi demain à 13h l'émission Rock Dreams, qui sera consacrée à Henri Salvador. Et oui. Et nous, on revient, eh bien, lundi. Je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end.